Âme mortelle, par rapport à la connaissance, la plus utile conquête qui ait peut-être été faite, c'est d'avoir renoncé à la croyance en l'âme immortelle. Maintenant, l'humanité a le droit d'attendre. Maintenant, elle n'a plus besoin de se précipiter et d'accepter les idées mal examinées comme il y fallait être autrefois. Car alors, le salut de la pauvre âme immortelle dépendait de ses convictions durant une courte existence. Il lui fallait se décider d'aujourd'hui à demain. La connaissance avait une importance épouvantable. Nous avons reconquis le bon courage à errer et à essayer à apprendre provisoirement. Tout cela a moins d'importance. Et c'est justement pour cela que des individus et des générations entières peuvent envisager des tâches si grandioses qu'elles seraient apparues autant jadis comme de la folie et un jeu impie avec le ciel et l'enfer. Nous avons le droit de faire des expériences avec nous-mêmes. L'humanité tout entière en a même le droit. Les plus grands sacrifices n'ont pas encore été portés à la connaissance, soupçonnés de pareilles pensées. Telles qu'elles précèdent maintenant nos actes, cela aurait déjà constitué jadis un sacrilège et l'abandon de notre salut éternel. Un seul mot pour trois états différents. Chez celui-ci, la passion fait éclater la bête sauvage, horrible et intolérable. Celui-là s'élève par elle à une hauteur, une largeur et une splendeur d'attitude qui font paraître mesquine son existence coutumière. Un troisième, dont toute la personne est pénétrée de noblesse, reste noble dans son impétuosité et représente, dans cet état, la nature sauvage et belle, se trouvant seulement un degré plus bas que la grande nature tranquille et belle qu'il représente habituellement. Mais les hommes le comprennent mieux dans la passion et ils le vénèrent davantage à cause de ces moments-là. Ils se trouvent alors plus près d'eux d'un pas et ils leur ressemblent davantage. Ils ressentent du ravissement et de l'épouvante à un pareil aspect. Et c'est alors justement qu'il l'appelle divin. Amitié. Cette objection à la vie philosophique que par elle on devient inutile à ses amis ne serait jamais venue à l'esprit d'un homme moderne. Elle est antique. L'Antiquité a profondément et fortement vécu la notion de l'amitié. Elle l'a presque emportée dans sa tombe. Ceci est l'avance qu'elle possède sur nous. Nous pouvons présenter par contre l'amour idéal des sexes. Toutes les grandes choses qui ont été faites par l'humanité antique trouvaient leur force dans le fait que l'homme se trouvait à côté de l'homme et qu'aucune femme ne pouvait élever la prétention d'être pour l'homme l'objet de l'amour, le plus proche et le plus haut, ou même l'objet unique, comme l'enseigne le sentiment de la passion. Peut-être nos arbres ne poussent-ils pas si haut à cause du lierre et de la vigne qui s'y attachent. Concilier. Serait-ce donc la tâche des philosophes de concilier ce que l'enfant a appris avec ce que l'homme connaît par l'expérience? La philosophie serait-elle la tâche des jeunes gens, puisque ceux-ci tiennent le milieu entre l'enfant et l'homme et ont des besoins moyens? Il semblerait presque qu'il en soit ainsi s'ils considèrent à quels âges de la vie les philosophes ont maintenant coutume de créer leurs conceptions, alors qu'il est trop tard pour la foi et trop tôt pour la science. Les hommes pratiques. C'est à nous autres penseurs qu'appartient le droit de fixer le bon goût de toute chose et de le décréter aux besoins. Les gens pratiques nous l'empruntent et leur dépendance à notre sujet est infiniment grande. C'est là le spectacle le plus ridicule que l'on puisse voir, bien qu'ils veuillent ignorer cette dépendance et qu'ils aiment à nous traiter avec fierté de gens qui manquent de sens pratique. Ils iraient même jusqu'à mépriser leur vie pratique si nous voulions la mépriser, ce à quoi une petite envie de vengeance pourrait de temps en temps nous inciter. La nécessité de faire tout ce qui est bon. Comment ? Il faut considérer une œuvre de la même façon que l'on considère le temps qui l'a produite. Mais on a plus de joie, plus d'étonnement, on s'instruit aussi davantage si on ne la considère point ainsi. N'avez-vous pas remarqué que tant qu'une œuvre bonne et nouvelle reste couchée à l'air humide de son temps, elle possède sa moindre valeur, justement parce qu'elle garde encore sur elle, à un tel point, l'odeur de la place publique, de l'opposition, des opinions récentes et de tout ce qui est périssable entre aujourd'hui et demain? Plus tard, elle dessèche. Sa vie temporelle s'éteint, et alors elle prend son profond éclat et son parfum, et si elle est faite en conséquence, l'œil tranquille de l'éternité.